On est de retour sur Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. En première partie, on a fait comme d'habitude une gros format sur le soccer avec les coupes européennes, notamment la Champions League et la Europa League. On a aussi parlé des grands championnats européens que ce soit en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, avec un petit mot sur l'Allemagne. On a aussi parlé de la CFL, on a aussi parlé de la MLS, avec notamment les éliminations de Toronto FC, de CF Montréal, le club qu'on a suivi tout au long de la saison, et également de l'Inter Miami, l'équipe de Lionel Messi. Je vous avais dit que j'allais faire un petit format sur l'annonce durant laquelle Lionel Messi serait couronné Ballon d'Or au cours des prochaines semaines. Huitième Ballon d'Or, apparemment. La nouvelle a fuité assez vite. Je suis assez étonné parce que, au cours de la dernière saison, Lionel Messi a joué pour le Paris Saint-Germain. Il était deuxième meilleur buteur du club, meilleur passeur du championnat de France. Il a fini champion de France. Bon, c'était l'année après Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut considérer, selon la tradition, que le joueur ayant gagné la Coupe du Monde et a été meilleur joueur de la compétition doit avoir le ballon d'or? Oui, c'est la tradition. Mais cette Coupe du Monde-là, ça fait un moment qu'elle a été jouée, ça fait un moment qu'elle est finie. Est-ce qu'on peut encore considérer que techniquement, après sa performance à cette Coupe du Monde-là, Lionel Messi est encore le meilleur joueur du monde? J'ai des doutes. Moi, j'aurais pensé peut-être à Mbappé, qui a fini tout simplement meilleur marqueur de cette Coupe du Monde, avec notamment un triplé. En finale, j'aurais pensé à Haaland, Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, qui a fait de très très grosses performances là. Meilleur buteur du championnat d'Angleterre, meilleur buteur, meilleur buteur durant la Champions League, qui a fait un quadruplé. Si je me rappelle bien, il a gagné la Coupe, le championnat d'Angleterre, il a gagné la Cup, ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils ont gagné encore? Ils ont gagné la Champions League, je pense au moins 4 trophées. Et ils ont gagné aussi la Super Coupe d'Europe. Donc je ne comprends pas pourquoi Haaland n'aurait pas. Oui, c'est vrai qu'avec la Norvège, il n'a pas une grande réussite, mais quand même, Haaland qui a fait une saison monstrueuse. Il y avait pas mal d'autres joueurs comme ça. Par exemple, Alvarez, le compatriote de Léo Messi au sein de l'équipe d'Argentine, qui a tout gagné lui aussi. Il a gagné quasiment toutes les compétitions. On se pose des questions parce que, ben oui, je suis personnellement un grand fan de Léo Messi, mais a priori, les lois ou les règlements qui s'appliquent au soccer, notamment pour les trophées individuels, il y en a pour Messi, il y en a pour les autres. En toute objectivité, peut-on dire que Messi, après sa saison assez passable au Paris Saint-Germain et sa saison, disons, très légère à l'Inter Miami au sein de la MLS est toujours le meilleur joueur au monde? Je sais pas. Je sais pas parce que ce qui est certain, il a gagné au moins un trophée avec l'Inter Miami, mais c'était des petites coupes comme ça. Et il n'a pas réussi à relever l'équipe au point de se qualifier pour les playoffs. Messi, toujours meilleur joueur du monde, je sais pas. Ça devient comme la coupe à Messi, le ballon d'or. Vous voyez? Donc j'ai vraiment du mal avec ça. Mais enfin, s'il le gagne, tant mieux pour lui. Ça va agrandir sa collection personnelle de trophées. Je voulais dire un mot aussi dessus. Et ça, vous entendez sans doute la chronique sur les ondes de Choc FM. En cours de semaine, on a appris l'annonce de la retraite de la plus grande joueuse de l'histoire du soccer canadien. Elle s'appelle Christine Sinclair, donc joueuse de 40 ans. Vous aurez la chronique là, j'ai un chiffre comme ça que j'aime répéter souvent, 190 buts en 327 matchs internationaux avec le Canada. Cherchez pas ailleurs, c'est tout simplement le record du nombre de buts, toutes catégories confondues, chez les hommes comme chez les femmes, à tous les niveaux. Cristiano Ronaldo, Léo Messi, Pelé, Neymar, Mbappé, personne n'a fait mieux que Christine Sinclair. Championne olympique en 2022. C'est une performance incroyable. Incroyable. Christine Sinclair, c'est tout simplement la plus grande joueuse de l'histoire du soccer canadien. C'est pour ça, dans la chronique, je vous invite à aller la voir. Je ne sais pas si elle aura été postée au moment où cette émission va être diffusée en ondes. C'est la plus grande joueuse de l'histoire du soccer canadien et peut-être la meilleure joueuse, la meilleure, qu'est-ce que je dis moi? Meilleure joueuse de soccer de l'histoire féminine de tous les temps. Peut-être pas la meilleure tout court, mais l'une des meilleures. Elle a remporté tellement de trophées. Même ne fût-ce qu'un trophée comme le trophée Lou Marsh qui récompense le meilleur athlète canadien de l'année. Elle l'a remporté. Pour une dame, c'est pas rien. Meilleure joueuse canadienne de l'année, elle a remporté peut-être 6 années consécutives. Elle a fait des triplés face aux Anglaises. Dans ma chronique, je parle justement du fait que la grande rivalité entre le Canada et les États-Unis, l'une des équipes contre lesquelles elle a scoré le plus de buts, c'est les États-Unis. Au point que, et ça je vous confirme que ça arrive très très rarement, la Fédération américaine de soccer lui a rendu hommage sur leur site web. C'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donc franchement, Christine Sinclair, écoutez, allez écouter la chronique, allez sur le site de Canada Soccer Association, allez lui rendre hommage. Je pense l'un de ses derniers matchs, ça va être en décembre. Ceux qui ont la possibilité d'avoir des billets, allez-y. Si j'aurais la possibilité, je le ferais, j'irais parce que c'est quelqu'un que j'ai suivi pour le compte de Choc FM au cours des dernières années. Le soccer féminin, je m'y intéressais déjà depuis longtemps, mais en plus avec cette joueuse-là, c'est elle. Vous voyez l'énorme essor du soccer, notamment au niveau des équipes nationales au Canada. Ce n'est pas simplement Toronto FC, ce n'est pas simplement une belle génération de joueurs avec en tête de gondole Alphonso Davies. C'est Christine Sinclair et cette équipe féminine-là qui avait réussi de grandes performances pendant de longues années. Et ce n'est pas pour rien que l'actuel coach de Toronto FC, il avait commencé avec l'équipe féminine. Il les avait menés vers plusieurs qualifications, plusieurs tournois internationaux jusqu'à arriver à la médaille d'or. Mais en plus de ça, il a mené toute une génération, il a mené une grande motivation. Il s'est ensuite occupé pardon, de l'équipe masculine qui s'était qualifiée pour la Coupe du Monde il n'y a pas si longtemps. Et voilà, c'était beau ce qu'il avait fait. Je ne me rappelle plus son nom de famille. John Herdman, voilà, c'est ça. Et lui-même, ça a été l'un des premiers à féliciter Christine Sinclair pour sa belle carrière. Donc voilà, on a comme ça, on va lui rendre hommage à la grande Christine. Encore une fois, allez écouter la chronique. J'espère qu'elle sera postée sur les ondes du chocfm.ca. Allez, on va dire un mot maintenant pour cette deuxième partie de Cédric du Sport sur les grandes ligues. Vous savez, après avoir parlé pendant en long et large de soccer, on parle des ligues nord-américaines. Déjà, les classements dans la conférence Est. C'est Boston qui est en tête, 6 victoires, 0 défaites, suivi par Détroit, 5 victoires de défaite. New York Rangers, 4 victoires de défaite. Toronto, 5 victoires de défaite. Ils avaient aligné 2 défaites de suite et puis ça a l'air d'aller là. Au niveau de la défense, ça devient un petit peu compliqué. Au niveau de l'attaque, ce n'est pas très équilibré. On a noté notamment observé l'émergence du jeune gardien Joseph Wall. J'avais assisté à son tout premier match dans la Ligue nationale de hockey, c'était il y a 2 ans. C'est beau de voir son évolution là, ce jeune gardien-là. Maintenant, il y a l'autre gardien à côté, Samsonov, qui est, disons, qui devrait être le gardien titulaire. Maintenant, comment ça va se passer? Comment répartir le temps de jeu pour ceux qui suivent le hockey? Ce n'est pas aussi évident que ça. La plupart des gardiens d'élite jouent entre 50 et 60 matchs. Wall, je ne pense pas qu'il ait le niveau pour jouer 50 à 60 matchs, sinon il va s'écrouler tout simplement lorsqu'il faudra aller en playoff. Et la défense aussi, au niveau des Maple Leafs, c'est toujours très instable, quoi. Et au niveau de l'attaque, ben, si ce n'est pas le quartier d'or, donc vous savez, avec Austin Matthews, John Tavares, Mitch Marner, ça tient pas, ça tient pas, ça suffit pas. Les autres derrière, les joueurs de deuxième ligne, de troisième ligne, ils n'arrivent pas à marquer suffisamment. Donc, c'est une situation inédite chez les Maple Leafs. Pendant plusieurs saisons, ils marquaient beaucoup pendant la saison régulière. Ils avaient du mal à marquer pendant les playoffs. Et les gardiens, ça arrivait à tenir. Mais là, ils ont du mal à marquer tout simplement pendant la saison régulière. Ce n'est pas souvent que ça arrive. Mais en tout cas, on verra. Pour l'instant, ils sont quatrième. Cinquième, Tampa Bay. Sixième, Philadelphia. New Jersey, je suis derrière. Ensuite, Columbus. Après, c'est Montréal, Ottawa, Florida, Buffalo, Caroline et Washington. Dans la conférence Ouest, c'est Vegas qui a commencé la saison avec une fiche parfaite, 7 victoires en 7 matchs. C'est la première fois dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey qu'une équipe championne en titre commence avec un bilan parfait après 7 matchs. Bravo. Bravo les Golden Knights. C'est une belle histoire cette équipe-là. Il faut savoir que c'est l'avant-dernière équipe créée par la Ligue nationale de hockey. Cette équipe-là n'a pas 10 ans. Mais en 10 ans, ils ont déjà plus de succès que pas mal d'équipes qui existent depuis longtemps en Ligue nationale de hockey. Donc c'est remarquable le travail qui a été fait au niveau des Golden Knights. Donc premier dans la conférence Ouest, 7 victoires en 7 matchs. Suivi, qui suivent, c'est Colorado, l'avant-dernier champion de la Ligue nationale de hockey. Ensuite, c'est Dallas avec 4 victoires en 6 matchs. Ensuite, Vancouver qui fait un début de saison intéressant. Los Angeles, les Kings suivent derrière. Minnesota, le Wild. Winnipeg, coussi-coussa, 4 victoires, 3 défaites déjà en 7 matchs. Arizona, ben Arizona, on sait qu'il n'y a rien à espérer d'eux. Nashville, les Predators. Ensuite, c'est Saint-Louis, c'est Calgary, c'est Seattle, c'est Anaheim, c'est Chicago avec le petit prodige Connor Bedard. Edmonton, Edmonton, c'est la catastrophe. Edmonton qui a parmi ces joueurs, deux des cinq meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. C'est incroyable ce qui se passe à Edmonton. Ils ont Connor McDavid, ils ont Edmond Draisaitl, donc un grand passeur et un grand scoreur. Mais malgré ça, ils ont du mal à scorer des buts. Et au niveau des gardiens, c'est une catastrophe. Ils ont Jack Campbell qui a été pendant longtemps ici à Toronto. Il lui a signé un joli contrat, je ne sais pas pour combien d'années, mais il n'arrive pas, il n'y arrive pas. C'est une tragédie à Edmonton. Je ne sais pas s'il y a des Albertains qui suivent Cédric du sport, mais c'est incroyable. C'est une équipe qui a tellement de potentiel, mais qui n'y arrive pas. Ils sont en 6 matchs là. En 6 matchs, ils ont déjà perdu 4 fois. C'est une équipe qui aspire au titre. C'est une équipe qui a tout simplement le meilleur joueur du monde. Connor McDavid, c'est le meilleur joueur du monde. Il a scoré quoi? 160? Peut-être 150 points l'année dernière, donc quasiment 2 points par match. Quand vous avez un joueur qui flotte sur la glace comme ça, vous n'arrivez à rien gagner. C'est pas possible. C'est pas possible. Edmonton, il faut prendre des décisions majeures là. C'est pas possible. Allez, dernier, tout dernier, c'est San Jose, les Sharks. 7 matchs, 0 victoire, 6 défaites en temps réglementaire et une défaite en prolongation. C'est compliqué, Edmonton. Allez, on va switcher directement sur la NBA. Je rappelle que vous êtes dans Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM, que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi avec un mot rapide sur les Raptors. Les Raptors, les Raptors. Est-ce qu'on doit commencer par les Raptors? Oui. Leur match d'ouverture, ça a eu lieu au milieu de semaine. Je pense qu'il y aura un reportage qui sera fait et qui sera diffusé sur les ondes de Choc FM. En tout cas, on l'espère. Donc, ça a eu lieu le mercredi. Mercredi soir, dans le match d'ouverture, c'était face aux Minnesota Timberwolves. Victoire, c'était combien? 94 à 97. Ils avaient démarré tambour battant, mais bon, c'était à égalité après le premier carton, 25 à 25. Deuxième période, c'était 26 à 28 à l'avantage des Raptors, donc ils menaient de 2 points à la mi-temps. Troisième carton, c'est Minnesota qui a pris disons, de l'avance avec 23 points contre 20 pour les Raptors, et les Raptors ont conclu tranquillement sur la dernière période avec 24 points contre 20 face pour Minnesota. Donc, score final, 94 pour les visiteurs Minnesota Timberwolves et 97 pour les Toronto Raptors. Un mot sur le 5 partant, c'était Pascal Siakam qui a joué 34 minutes dans ce match-là avec 15 points, 7 rebonds et 6 passes. OG Anunoby avec meilleur mar... non, deuxième meilleur marqueur sur ce match-là, avec 20 points, 6 rebonds et une passe et deux interceptions. Oui, il faut rappeler que OG, c'était le meilleur intercepteur de la NBA, tout simplement, l'année dernière. C'est beau, ça fait un beau trophée individuel. Jakob Poeltl, donc, le pivot, seulement 7 points, avec quand même un match assez complet, là, puisque 11 rebonds, une passe, une interception et un contre. Anunoby, j'avais pas noté cela. 3 contres pour son premier match, c'est une belle performance. À Scottie Barnes, qui est rookie maintenant, c'est sa troisième année. Là, on espère que il va reprendre la forme de sa première année de rookie. En 37 minutes de jeu, donc c'est lui qui a joué le plus longtemps. Donc 17 points, 5 contres, 2 interceptions, 5 passes et 8 rebonds, donc un match complet à tous les niveaux du côté de Scottie Barnes. C'est enfin le meneur, celui qui a attendu là, Dennis Schroeder, qui a remplacé numériquement Fred Van Vliet, hein, Fred qui nous avait fait de belles performances ici au niveau des Raptors. Donc en 32 minutes de jeu, 22 points, meilleur marqueur du match, avec 7 passes, 3 rebonds, pas d'interception et pas de bloc. Donc Un match intéressant dans l'ensemble. Noté du côté des remplaçants, Gary Trent seulement 5 points. Precious Achiuwa 8 points. Jalen McDaniel 0 points. Malachi Flynn 3 points. Et Grady Dick, le rookie, seulement 2 minutes de jeu, 0 points et une passe. À noter que Chris Boucher n'avait pas joué ce match-là. Christian Koloko est toujours blessé. Et bon, Chris Boucher, on espère qu'il va revenir tout simplement. Chris, adorable ce garçon-là. Toujours très gentil. En tout cas, de mon côté, chaque fois que j'allais, que je vais, que j'ai la possibilité d'aller faire des reportages du côté des Raptors, on espère que avec l'arrivée du nouveau coach, ça ne va pas signifier pour lui le fait de avoir moins de temps de jeu, quoi. Pour l'instant, on ne peut pas donner les classements, ça n'a pas une grande importance. Juste rappeler que dans leur premier match, les Raptors l'avaient emporté, donc évidemment, ils sont en tête. New York a perdu, Boston avait gagné son premier match. Quel autre match notable? C'était Phoenix qui jouait face à Golden State. Phoenix était imposé. Bon, avec l'absence de Draymond Green, c'était assez prévisible. Quel autre match aussi? Ouais, les Lakers qui avaient perdu aussi pour le match d'ouverture face à Denver Nuggets. Et là, encore une fois, des inquiétudes du côté de Anthony Davis, puisqu'il avait commencé le match tambour battant avec 17 points en première période, mais ensuite 0 points en deuxième période. Là, c'est Eddie, comme on l'appelle, il va falloir passer à la vitesse supérieure parce que LeBron James, il est sur sa 21e saison, il ne peut pas tenir la barque aussi longtemps à lui tout seul. Il va falloir que Anthony Davis fasse quelque chose, quoi. C'est pas possible de juste faire ça, de jouer comme ça. On va dire, on peut pas dire qu'il choisit ses matchs, mais il peut pas faire que certains matchs il joue sérieusement et puis d'autres matchs on a l'impression que il met le frein, quoi. C'est pas possible, c'est juste pas possible de faire ça. On va dire un mot sur la conférence Ouest, puisqu'il y avait un match qui était très attendu. C'était la rentrée du prodige français Victor Wembanyama, donc qui jouait à domicile, je pense. C'était à domicile, je ne suis pas sûr si c'était à domicile, c'est à l'extérieur. Donc il jouait contre les Dallas Mavericks pour la grande rentrée de l'équipe de coach Pop, l'équipe texane, donc un duel texan. Et dans ce match-là, les stats de Wembanyama en 23 minutes de jeu, 15 points, 5 rebonds. 5 rebonds, ouais, ça pourrait être mieux puisque c'est un joueur qui est supposé jouer au centre là, donc pivot, 2 passes et 2 interceptions et un contre. Dans l'ensemble, on va dire, il n'a pas très bien géré le niveau des fautes puisque 5 fautes, il en avait déjà 2, je pense, en tout début de match, donc il a fallu gérer 5 minutes de jeu. Ben, une performance acceptable, hein, je dirais même plus qu'acceptable, mais en face, on avait le magicien Doncic avec un triple-double pour commencer la saison, 33 points, 13 rebonds et 10 passes. Et la défense de Dallas Mavericks s'est bien adaptée à Wembanyama. Donc maintenant, c'est à ses coéquipiers de pouvoir bien lui distribuer le ballon pour qu'il y arrive, quoi, parce que 23 minutes de jeu, 15 points, ça veut dire que s'il peut approcher les 30 minutes de jeu, il serait probablement capable de dépasser les 20 points par match. Et dans ce match-là, à noter que l'autre Français, Sidy Cissokho, n'avait pas joué ce match-là. Donc et ça, il le sait, Victor Wembanyama, il va être observé. Chaque jour, chaque match, chaque semaine, il y a des gens qui, ben, pour une raison, pour des raisons bonnes ou mauvaises, qui ne l'aiment pas, qui souhaitent qu'il ne réussisse pas. Moi, je pense qu'avec sur ce qu'on a vu des matchs de pré-saison, il a l'arsenal offensif pour faire des bonnes choses et défensif aussi. On l'a vu compter des shoots à 3 points. Pour ceux qui connaissent le basket, vous savez ce que ça prend au niveau athlétique de contrer des shoots à 3 points. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Donc, ouais, il y a des chances que ça devienne intéressant du côté de Victor Wembanyama. Ce qui est sûr, on va surveiller comment ça va se passer pour les San Antonio Spurs tout au long de la saison. On va dire un mot parce que cette année, ce qu'on a découvert, c'est qu'on a un nombre record de Canadiens. C'est la 10e année consécutive qu'au niveau du Canada, on a le plus grand nombre de joueurs étrangers en NBA. Et je vais vous donner la liste là, 26. 26 joueurs canadiens. Delano Banton, qui était aux Raptors avant, qui joue maintenant aux Boston Celtics. O'Shea Brissett, qui était aussi aux Raptors, qui joue aux Boston Celtics. Tristan Thompson, qui est de Brampton, qui joue aux Cleveland Cavaliers. AJ Lawson, qui joue aux Dallas Mavericks. Dwight Powell, qui est aussi de la région de Toronto, qui joue aux Dallas Mavericks. Olivier Maxence Prosper, je pense qu'il doit être québécois lui, j'ai jamais vu. En tout cas, qui joue aux Dallas Mavericks aussi. Jamal Murray, champion en titre de la NBA, qui est de Kitchener, donc ici en Ontario, qui joue aux Denver Nuggets, champion en titre, et qui a encore fait un très très gros match mercredi soir face aux Lakers. Corey Joseph, qui est maintenant un vétéran, lui aussi, il a été champion avec les Spurs dans le passé. Il est aussi passé par les Raptors, qui joue actuellement au Golden State Warriors. Andrew Wiggins, qui est d'ici là aussi à Toronto, qui joue au Golden State Warriors, était champion l'année, ben, pas la saison dernière, mais l'année d'avant. Dylan Brooks, qui est de Mississauga, mon secteur, qui joue au Houston Rockets, il a réussi à se décrocher un très beau contrat là-bas. On espère qu'il va continuer sur la lancée de ses performances pendant la Coupe du Monde FIBA. Andrew Nembhard, qui joue au Indiana Pacers. Bénédicte Mathurin, joueur québécois, qui a fait une belle saison en tant que rookie. On espère qu'il va continuer sur cette lancée-là. Joshua Primo, qui avait eu des problèmes un peu sordides, là, qui se serait dévoilé physiquement à des membres du staff médical des Spurs. On ne sait pas pourquoi, mais qui a réussi à se trouver un contrat avec les Los Angeles Clippers. Joueur très jeune, hein. Joshua Primo, je pense qu'il arrivait en NBA, il avait à peine 18 ans. À peine 18 ans. Donc, à déjà avoir des soucis judiciaires alors qu'il a à peine 20 ans, je ne sais pas. On espère qu'il va se ressaisir assez vite. Brandon Clark, qui joue au Memphis Grizzlies. Lindell Wingington, qui joue au Milwaukee Bucks. Nickel Alexander Walker, qui joue au Minnesota Timberwolves. Leonard Miller, qui joue au Minnesota Timberwolves aussi. RJ Barrett, qui est aussi de Mississauga, mon quartier, qui joue au New York Knicks. On le connaît bien, RJ. Lugansz Dort, lui aussi un Québécois qui joue à Oklahoma City. Caleb Houston qui joue au Orlando Magic. Shaedon Sharpe, joueur très aérien, très athlétique. Si vous voulez voir un joueur qui fait du spectacle, allez voir Shaedon Sharpe qui joue au Portland Trail Blazers. Trey Lyles qui joue pour le Sacramento Kings. Charles Bediako qui joue pour les San Antonio Spurs. Et enfin, Kelly Olynyk qui joue pour les Utah Jazz. C'est étrange dans cette liste-là. On n'a pas marqué Chris Boucher qui apparemment serait enregistré en tant que joueur de Sainte-Lucie, mais si je ne me trompe pas, Chris Boucher a bel et bien joué pour l'équipe canadienne, donc il devrait être considéré en tant que joueur canadien. On va finir bientôt, mais on va dire un mot sur l'actualité un petit peu en NBA, à savoir que du côté les Philadelphia, les 76ers, il y a une crise un petit peu. On sait que depuis la saison dernière, l'ancien joueur, ancien MVP de la saison, et meilleur marqueur, meilleur passeur de la ligue, James Harden ne veut plus être dans cette équipe-là. Apparemment, sa mère aurait des soucis de santé, mais qu'avant ça, il aurait demandé à être échangé vers une autre équipe. Juste pour schématiser, disons. Résumé, en NBA, c'est pas comme au soccer où on paye un certain montant pour pouvoir retenir les services d'un joueur. On achète, disons, son contrat. C'est pour ça qu'on parle de trade, donc d'échange. Et lui, il avait signé une extension avec l'équipe de Philadelphie, mais a priori, parce que sous réserve de confirmation officielle, le dirigeant principal, donc le président des Sixers de Philadelphie, lui aurait promis un super contrat, donc disons le maximum possible, avec plusieurs années. Il faut savoir qu'Arden, il a largement dépassé les 30 ans, donc lui, tout ce qu'il veut maintenant, c'est avoir le meilleur contrat possible. Donc apparemment, le président des Sixers n'aurait pas respecté sa promesse, ce qui fait que Arden veut quitter de cette équipe-là. Le problème avec Arden, on va dire, c'est un joueur qui a tendance souvent à être en surpoids. C'est un joueur caractériel. C'est un joueur qui souvent veut faire ce qu'il veut. C'est un joueur qui aime souvent soigner ses statistiques personnelles. Donc, on sait que en matière de carrière dans le basket, l'exception étant LeBron James, lorsqu'on arrive à 30 ans, 31, 32, on est vraiment au maximum de ses possibilités. À partir de là, il y a un vrai déclin. Et c'est le cas pour Harden. Il y a quelques années, on le considérait comme le meilleur marqueur, l'un des meilleurs marqueurs de l'histoire de la ligue. Mais depuis, il arrive même qu'il fasse des matchs, il est à moins de 15 points. Il est plutôt orienté vers la passe. C'est pas étonnant puisqu'il est avec Joel Embiid. Mais c'est quand même un problème. C'est quand même un problème parce que pour un joueur qui réclamerait tant d'argent, mais qui n'est pas capable de se mettre au service de l'équipe, je ne vois pas quelle équipe qui va se sacrifier pour lui. En tout cas, on verra comment ça va se passer pour James Harden. C'est malheureux pour Joel Embiid parce qu'il mérite mieux que ça. Je vais dire un mot pour finir sur la Ligue nationale de football avec pas mal de matchs. Comme ça, on va dire rapidement, est-ce qu'on peut retrouver tous les matchs qui auront lieu? Vous savez que la Ligue nationale de football, c'est généralement le dimanche que les matchs ont lieu. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les Tampa qui jouent contre les Bills, les Jets de New York qui jouent contre les Giants, Jaguars Jacksonville contre les Steelers, Philadelphia contre les Commanders, LA Rams contre les Cowboys de Dallas, Vikings de Minnesota contre les Green Bay Packers, Atlanta contre les Titans, New England Patriots contre les Dolphins de Miami, les Saints, mon équipe qui va jouer contre les Colts, Indianapolis, les Texans qui vont jouer contre les Panthers, Cleveland, les Browns qui vont jouer contre les Seahawks, Bengals qui vont jouer contre San Francisco. Et les 4 dernières affiches, c'est les Chiefs de Kansas City qui vont jouer contre Denver, les Broncos. Là, ça va être un massacre. Je peux vous le dire déjà. Baltimore, les Ravens qui vont jouer contre les Cardinals. L'affiche de 20h le dimanche, ce sera Chicago contre les Chargers. Et enfin, le match du lundi, ce sera les Las Vegas, les Raiders qui vont jouer contre Detroit, les Lions, l'une des équipes surprises de cette saison. C'était sur cette mot. Sur ce mot de la NFL, qu'on conclut cette émission de Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être mon anniversaire. Je ne sais pas si je pourrai enregistrer d'émission, je ne sais pas. Ça se pourrait même que j'essaye de venir en studio. En tout cas, je vais essayer de préparer ça. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un honneur d'être avec vous sur les ondes de Choc FM. Plaisir renouvelé. On se retrouve au cours des prochains jours, même heure, même fréquence, sur les ondes de Choc FM, le 100% Toronto, 100% francophone, le 105.1. Restez sur nos ondes, on se retrouve. Mettez-vous au chaud parce que la température commence à baisser. Bonne fin de semaine à tous et à toutes.